Bonjour et bienvenue dans ce 31e grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvesan, journaliste AEF Info, et à mes côtés, dans le studio module, a pris place Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sarah.
Jérôme, cet épisode est un peu spécial puisque nous recevons aujourd'hui une ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce n'est pas banal. Alors pourquoi une ancienne ministre dans un podcast consacré aux écoles de management? Tout simplement parce que notre invitée du jour, en quittant la rue Descartes en mai 2022, s'est aventurée sur cette terra incognita pour elle, la spécialiste de génétique moléculaire. Et on va très vite lui demander pourquoi. Frédéric Vidal, bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Vous êtes donc resté 5 ans au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dès 2017, c'est-à-dire durant tout le premier mandat d'Emmanuel Macron. C'est une longue expérience sur laquelle nous allons revenir en quelques questions. Mais d'abord, dévoilons les raisons pour lesquelles nous vous avons convié dans ce studio. Depuis 3 ans, vous êtes conseillère du président de l'EFMD, l'organisme d'accréditation européen qui évalue les programmes de formation en gestion et en management. C'est donc une entreprise du secteur de la qualité qui délivre notamment le très recherché label EQUIS qui distingue les meilleures business schools au monde. Et puis, depuis le début de cette année, vous avez aussi pris la présidence du think tank de Schema Business School, l'école de commerce fondée et dirigée par votre amie Alice Guillon, niçoise comme vous, think tank qui s'appelle Schema Publica. Alors, première question évidente, Frédéric Vidal, qu'est-ce qu'une biochimiste et ancienne ministre vient-elle faire dans le secteur de la formation au management ?
Bien, vous l'avez dit, en fait, c'est le secteur de la qualité. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, me paraît très important. Et puis, le FMD porte aussi des valeurs européennes. Ce n'est pas le seul organisme d'accréditation renommé, puisqu'on parle toujours de la triple couronne pour les écoles de commerce. Et donc, c'est l'une de ces triples couronnes. Et c'est celle qui porte des valeurs européennes. Et donc, ça, pour moi, c'était aussi important. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose que je ne savais pas faire. J'avais envie de continuer à apprendre. Ça, c'est un petit peu ce qui m'a guidée depuis que j'ai commencé mes études.
Donc, de découvrir un nouveau domaine.
Découvrir un nouveau domaine et avec un regard particulier, hein, puisque à l'université Nice-Sophia Antipolis que j'ai présidée, on avait un IAE. Que pour la première fois, d'ailleurs, je pense que c'était grâce à la FNEJ, on a eu une idée de l'impact global d'un IAE sur un territoire. Mmh. Et c'était particulièrement intéressant et j'aurais aimé qu'on puisse le faire au niveau de l'université parce que souvent on ne se rend pas compte de l'impact, y compris économique, que peut avoir une université sur son territoire. Et j'avais été particulièrement intéressée par cette capacité à dire simplement qui était l'IAE de Nice. Et qu'est-ce qu'il a apporté à son territoire ?
Est-ce que vous diriez que c'est difficile de se reconvertir après un type d'expérience comme vous l'avez eu, longue et très exposée dans un ministère ?
Non, je ne dirais pas que c'est difficile. Je dirais que j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire une plus grande liberté, évidemment, dans son agenda et la capacité à faire les choses à son rythme, comme on a envie de les faire. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'Éric Cornuel a été... très facilitant, puisque l'objectif, c'était vraiment que je puisse réfléchir avec lui, avec le board, avec l'ensemble des équipes de l'EFMD sur un certain nombre de grands sujets. Et puis que je puisse aussi regarder comment ça se passait à l'international, profiter aussi de l'expérience que j'avais eue, bien sûr, pendant 5 ans.
Alors, votre biographie est déjà connue, mais je vais en redonner les principaux points saillants. Vous êtes née à Monaco. Vous êtes fille d'hôtelier et vous êtes la première de votre famille à obtenir le baccalauréat. Vous échouez d'abord en première année de médecine, puis vous réussissez le concours d'infirmière. Et enfin, vous vous réorientez vers la biochimie à l'Université de Nice et poursuivez ensuite vers la virologie à l'Institut Pasteur. Après quelques années de paillasse, comme on dit, vous prenez des responsabilités administratives, toujours à l'Université de Nice, et puis vous finissez par la présider pendant 5 ans à partir de 2012. La suite, on la connaît, forte de votre succès au programme des initiatives d'excellence, notamment qui a distingué l'Université de Nice, et évidemment de vos engagements politiques. Vous êtes appelée par le président de la République pour être sa première ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors j'ai préparé un petit questionnaire de Proust, entre guillemets, sur cette expérience, sans forcément revenir sur la chronologie précise des réformes ou des dossiers que vous avez portés. mais plutôt pour savoir ce que vous retenez de ce passage au gouvernement et de cette fréquentation des lieux de pouvoir, si je puis dire. Alors ma première question, c'est qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 5 années sur le fonctionnement de la France, allons-y directement, sur ses élites, hein, sur le rôle d'un ministre, ses marges de manœuvre, ses limites peut-être aussi.
En tant que ministre, je crois que j'ai appris la patience. Je ne suis pas quelqu'un qui est particulièrement patient de nature. Et j'ai appris la patience, c'est-à-dire j'ai appris le cheminement législatif, j'ai appris la façon dont se déroulaient les écritures de décrets. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, puisque j'avais aussi l'innovation dans mon portefeuille, l'espace aussi d'ailleurs au début du mandat. C'est un ministère qui travaille énormément avec les autres ministères. Et donc voilà, il faut que tout le monde se cale. Et c'est peut-être ça que j'ai le plus appris pendant ces 5 ans.
On entend souvent dire qu'en France, parce que les élites politico-administratives sont plutôt formées en dehors de l'université, donc dans des grandes écoles, à l'ENA, l'enseignement supérieur et la recherche ne seraient jamais vraiment des priorités des gouvernements successifs. Et cela expliquerait aussi qu'ils soient mal financés, en manque de vision stratégique de long terme. On voit notamment que le ministère de l'enseignement sup est rarement un ministère d'État, qu'il est assez loin dans l'ordre protocolaire, parfois même en dernière place. Quel est votre sentiment sur ce point? Est-ce que vous avez l'impression, si je vais vite, d'avoir en quelque sorte occupé un strapontin pendant 5 ans?
Non, pas du tout. Alors, d'abord, vous l'avez dit, ça dépend évidemment des mandatures. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un président de la République, avec 2 premiers ministres qui étaient très conscients de la nécessité de la recherche. C'est pour ça qu'on a travaillé sur des stratégies de recherche, sur des programmes prioritaires de recherche, que ça a été fait en lien avec le ministère de l'Économie, avec le ministère des Armées, de manière à ce qu'on soit capable non seulement de promouvoir la recherche académique, mais aussi l'impact de cette recherche et d'aller jusqu'à l'économie et puis de le faire évidemment en dual, à la fois civil et militaire pour certains sujets. Après, oui, c'est vrai que beaucoup de gens passent plutôt par les grandes écoles, hein, dans la haute administration, plutôt que par l'université. Mais l'université, c'est aussi la recherche. L'université, c'est aussi les thèses. Et d'ailleurs, dans le premier gouvernement, nous étions plusieurs à avoir un doctorat. Et peut-être que c'était aussi une originalité de ce gouvernement.
Donc, à vos yeux, c'est faux de penser que l'enseignement sup et la recherche en France sont un peu les mal lotis?
Oui, je pense que c'est peut-être une image qui est donnée, mais d'abord le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est le 3e budget de l'État, donc on peut difficilement dire qu'on a un petit budget. On peut évidemment toujours dire qu'il n'est pas suffisant parce qu'on a de grandes ambitions et parce que pour porter ces ambitions, évidemment, il faut qu'elles puissent être financées. Mais en tout cas, en ce qui concerne la période que j'ai passée au gouvernement, que ce soit sur la loi orientation et réussite des étudiants, avec donc plus d'un milliard d'euros injectés pour l'accès au premier cycle, l'organisation des études au niveau du premier cycle, que ce soit avec la loi de programmation pour la recherche. Hein, il y a eu 2 lois de programmation pendant le premier quinquennat, dont une pour la recherche. Donc ça, il me semble que c'est la preuve que, en tout cas, pendant cette période-là, il y a eu vraiment une attention particulière au sommet de l'État pour les questions de recherche et d'enseignement supérieur.
Si vous deviez revenir au ministère aujourd'hui, forte de cette première expérience, qu'est-ce que vous feriez différemment?
Je pense que j'essaierai de lancer un maximum de choses le plus tôt et le plus vite possible. Justement, c'est en lien avec cette patience que j'évoquais, parce que parfois ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Lorsque vous avez une loi qui fait plusieurs passages au niveau du Parlement, en première lecture, en deuxième lecture, le calendrier parlementaire est extrêmement contraint, et donc c'est très difficile. Je vous avoue que si la loi de programmation de la recherche n'était pas passée en première lecture, c'est probable qu'elle n'ait jamais été promulguée. Mmh. Donc voilà, j'aurais lancé des choses plus vite, plus tôt, de manière à ce qu'ensuite elles s'étalent dans le temps et elles puissent se réaliser.
Donc faire les choses dès que vous arrivez, ne pas perdre de temps et être focus sur les objectifs.
À la fois c'est difficile parce que quand on arrive, en tout cas dans mon cas, on n'y connaît rien. Donc on a tout à apprendre et on a évidemment peur de faire des bêtises.
Mmh. Et pour terminer sur ce petit bilan ministériel, dites-nous en une phrase une chose qui vous a déçu, une chose dont vous êtes fière et une chose que vous auriez dû faire tant que vous en aviez l'opportunité.
Alors, ce qui m'a déçue, c'est parfois la différence que l'on observe entre la volonté et l'idée de départ et la façon dont ça atterrit sur le terrain. Alors, dont ça atterrit en termes de ressenti, mais dont parfois aussi la façon dont ça atterrit en termes d'application. Et ça, je pense qu'il faut être très vigilant à ce qu'on appelle le dernier kilomètre, parce que c'est souvent là que le diable se cache dans les détails.
Vous avez un exemple, par exemple ?
Oui, enfin, c'est quasiment sur tous les sujets. J'avais des ambitions et dans ma tête, les choses étaient beaucoup plus simples que ce qui a finalement atterri. Je pense par exemple à toutes les mesures de repyramidage. Pour moi, c'était quelque chose qui devait être simple, laissé à la main des établissements. Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça. On a tout le système des ressources humaines, on a tous les contrôles avant, après, pendant. Je pense que c'est à la fois nécessaire parce que c'est beaucoup d'argent et donc évidemment, il faut qu'on rende compte de l'usage de cet argent. Mais je pensais que ce serait beaucoup plus simple, par exemple.
Une chose dont vous êtes fière ?
Alors, je suis très très fière d'avoir obtenu cette loi de programmation pour la recherche. C'est une loi de programmation, c'est de la visibilité, y compris... c'est une loi de programmation avec un volet financier. On a parfois des lois de programmation qui n'ont pas ce volet financier. Donc ça, c'est de la visibilité qui a été donnée à la recherche. Et je pense que ça, c'était très important. Après... la chose dont je suis peut-être intimement la plus fière, c'est d'avoir permis qu'un budget soit consacré à la culture scientifique et technologique.
Ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Pas de manière aussi claire. Mm-hmm. Il y avait des actions qui étaient soutenues, mais il n'y avait rien de systématique.
Mm-hmm. Une chose que vous auriez dû faire tant que vous le pouviez ?
J'aurais dû commencer beaucoup plus tôt la réforme des bourses étudiantes. Voilà, on en a beaucoup parlé, puis bon, c'est vrai qu'on a eu le Covid à premier lieu. Mais je regrette de ne pas avoir porté ce projet-là.
Venons-en maintenant à vos fonctions actuelles auprès du président de l'EFMD. Éric Cornuel, vous nous avez dit que la dimension accréditation n'était pas du tout dans votre champ, mais que vous étiez plutôt dans un rôle d'analyste, prospectiviste, de veille, pour nourrir la réflexion du conseil d'administration de l'EFMD. Concrètement, ça se traduit comment ?
Alors concrètement, ça se traduit par la lecture d'énormément de rapports. En fait, on ne se rend pas compte de la quantité de rapports qui sont produits sur les différents sujets. Moi, j'ai travaillé sur trois sujets principalement. D'abord, tout ce qui tourne autour du développement durable, comment est-ce qu'on l'enseigne, mais aussi comment est-ce qu'on le pratique dans les écoles de management. Et donc, voilà, comment ça se mesure, comment on ne fait pas du greenwashing, mais on fait vraiment des choses en faveur du développement durable. J'ai travaillé aussi autour de qu'est-ce que l'impact ? Alors, à l'EFMD, il y a déjà un système qui s'appelle BESIS qui évalue l'impact. Mais la question, c'était de regarder comment est-ce qu'on pouvait valoriser aussi des carrières qui visent à produire de la connaissance avec un impact, ou en tout cas avec une implication dans la vie réelle. Et donc ça, c'est plus compliqué que ce qu'on pense, parce qu'on en parle beaucoup, mais la question de l'impact, on ne sait pas très bien la définir, et donc c'est très difficile à reconnaître aussi dans les carrières. Et puis le troisième sujet, c'est autour de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, alors dans l'éducation en général et dans l'enseignement supérieur en particulier. Comment on se positionne dans les écoles pour ça. Donc ça, c'est beaucoup de benchmark international aussi, pour savoir comment les autres appréhendent ça, pour pouvoir faire des propositions. Et ces sujets, ensuite, ils sont débattus lors des assemblées générales de l'EFMD, ils sont débattus lors des conférences des deans, et puis ils sont présentés au board de l'EFMD. Voilà, pour avancer sur ces sujets-là, qui sont tous les trois des sujets importants, je pense.
Sarah l'a dit, vous n'êtes vous-même pas issue des sciences de gestion, et même si ces sciences de gestion ne vous étaient pas totalement étrangères. Quel rapport d'étonnement faites-vous après cette plongée de 3 ans dans l'univers des business schools, à la fois en France, mais aussi à l'étranger ?
Ben disons que c'est peut-être finalement l'endroit où c'est le plus simple de mesurer l'impact, si je puis dire, puisque les jeunes qui sortent diplômés de ces écoles sont ensuite des jeunes qui souvent vont prendre des responsabilités managériales, et donc c'est aussi eux qui vont pouvoir transformer les choses. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Et le soin que prennent la grande majorité des écoles à suivre le parcours de leurs étudiants, à savoir ce qu'ils deviennent. Alors, je ne suis pas naïve, je sais qu'évidemment, c'est important pour tout un tas de classements. Enfin, c'est une réalité, moi, que je constate, hein, cette capacité à faire du suivi, du devenir, à travailler beaucoup avec ses alumni, à leur demander comment ils voient les choses pour les générations futures, puisqu'ils sont maintenant en position de direction, de management, etc.
Quand vous assistez à une réunion de doyens de Business School, ça ressemble à une réunion de la CPU ou c'est complètement différent ?
Alors, c'est différent, hein, parce que d'abord, France Université, ex-CPU, se réunit tous les mois. Donc là, c'est vrai que les conférences des doyens, c'est moins fréquent. Et surtout, c'est thématique. Donc en fait, on vient avec des réflexions qui vont intéresser l'ensemble des doyens des écoles de commerce. Il y a cette notion de partage. Alors ça, on le retrouve partout en réalité. Hein. C'est difficile à comprendre quand on n'est pas du milieu, mais c'est à la fois de la compétition et de la coopération. Parce que si on laisse les gens derrière trop loin, finalement, ils peuvent nous entraîner vers le bas. Donc c'est important que tout le monde progresse. Après, évidemment, c'est toujours important d'avoir aussi un petit pas d'avance. Donc c'est compétition, coopération, et ce sont vraiment toujours des thématiques qui se préparent à l'avance. Et moi, je vois des doyens qui ont réfléchi et qui viennent chercher des informations. Donc c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu connaître à la CPU ou à France Université, où ce sont des réunions mensuelles où on parle des problèmes des universités, où on cherche des actions à porter. Après, dans les commissions de France Université, on a effectivement des réflexions de fond, mais c'est pas la même chose, en tout cas de ce que j'ai pu en voir.
Revenons sur les sujets que vous avez déjà creusés pour le compte de l'EFMD. On ne vous demande pas de livrer toutes les conclusions des...
Non, je ne vous les donnerai pas d'ailleurs. Elles ne m'appartiennent plus.
Alors prenons l'IA par exemple. On en a beaucoup entendu parler à l'occasion du sommet de Paris en février dernier. Quels sont les enjeux et quelles doivent être les priorités des dirigeants de Business School en 2025, selon vous, sur ce sujet de l'IA ?
Moi, je crois qu'il faut d'abord respirer face à l'intelligence artificielle, comprendre ce que c'est, comprendre ce que ça peut faire. Est-ce que ça ne peut pas faire ? Ne pas y croire, ce n'est pas une croyance. Hein. Derrière, il y a des algorithmes, ça s'explique, ça se comprend. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à mon sens, il ne faut pas l'interdire. Ça ne marche pas. Enfin, on ne peut pas interdire quelque chose qui maintenant est aussi répandu, que ce soit l'IA ou l'IA générative, hein, qui est encore le pas supplémentaire. Mais par contre, ça va profondément... bouleverser le métier d'enseignant, et ça va profondément bouleverser la façon dont on est étudiant. Je crois qu'il faut vraiment comprendre quand on est étudiant qu'il faut, malgré l'IA générative qui peut sortir des textes magnifiques, il faut juste être capable de les comprendre et de les vérifier. Ça, c'est très important, et ça, on ne peut pas le faire si on n'a rien appris. Donc, c'est difficile parce qu'on a l'impression d'avoir un outil qui nous donne beaucoup de choses. Et donc, on a l'impression que, bon, finalement, apprendre, c'est peut-être un peu moins important. Sauf qu'on ne peut pas avoir d'esprit critique si on ne sait pas réfléchir, et on ne peut pas réfléchir si on n'a rien appris. Donc ça, il faut que les étudiants en soient très conscients, et d'ailleurs, je pense que, globalement, ils le sont. Voilà, il y a eu un engouement, et puis maintenant, ils se rendent compte qu'il ne faut pas qu'ils s'amusent à rendre une copie d'IA générative sans avoir relu et compris ce que l'IA avait écrit, parce que parfois, c'est un peu surprenant ce que les IA peuvent écrire. Et puis, côté prof... Il faut qu'on, évidemment, ça fait longtemps que je le pense, mais là, c'est encore plus obligatoire, si je puis dire, il faut qu'on sorte de la relation magistrale. Je suis là, je parle, on m'écoute, on prend des notes. Ça, c'est terminé, je pense qu'il faut oublier. Et donc, il faut donner envie d'apprendre. Et donc, c'est une grande transformation du métier.
Ce sera transmis à nos collègues.
Oh, mais je pense qu'ils en sont tout à fait conscients aussi.
Ce que vous voulez dire, c'est que les profs doivent se saisir des IA, évidemment, mais travailler avec au quotidien.
Ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut que ce soit un co-apprentissage des IA génératives par les profs et les étudiants. Mmh. Il faut que les profs comprennent en quoi les IA génératives peuvent être un outil pour transmettre des connaissances. Et il faut que les étudiants comprennent que ce n'est qu'un outil. Un des outils à leur disposition pour apprendre.
Alors, votre mission à l'EFMD vous amène à pas mal voyager, à adopter un point de vue très international sur les sujets que vous traitez. Alors, on a une riche actualité internationale dans le domaine académique en ce moment qui nous vient essentiellement des États-Unis, mais pas que. Selon vous, quels sont les impacts de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis à la suite de l'élection de Donald Trump et des mesures qui sont prises en termes de collaboration de recherche, de mobilité étudiante. On a entendu notre ministre actuel, Philippe Baptiste, indiquer qu'il attendait des idées pour faire venir nos collègues américains. Voilà.
Alors d'abord, je pense qu'il faut absolument préserver la libre circulation des idées. Et donc ça, je ne me fais pas trop de soucis parce que le monde de la recherche est un monde qui, de ce point de vue-là, je le crois sincèrement, ne se laissera pas brider. Et donc, s'il y a de la connaissance à partager, les chercheurs trouveront le moyen de le faire. Pour les étudiants, ça peut être plus compliqué. On a vu des restrictions de visa qui commençaient à être annoncées dans un certain nombre de pays. Moi, je pense que c'est une chance pour nous, puisqu'il faut qu'on soit capable de continuer à former ces jeunesses du monde entier. Et donc, si on le fait en France, c'est très bien. Et pourquoi je pense que c'est important ? Parce que pour moi, quand on va passer du temps dans un autre pays, on comprend le pays, on comprend les gens qui y habitent, on comprend la culture, la musique, le cinéma de ces pays. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on y apprend d'un point de vue académique, c'est aussi ce qu'on y apprend tout court. Et je crois que c'est ça qui en fait une expérience irremplaçable pour comprendre le monde. Et je crois qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que le monde est complexe. Il n'est pas forcément compliqué, mais il est complexe. Et donc, il faut savoir aborder cette complexité. Et pour ça, rien de mieux que d'aller s'y immerger.
Si on revient sur la situation spécifique des États-Unis, est-ce que vous attendez un affaiblissement de nos liens académiques ?
Non, en fait, il va probablement se passer ce qui s'était passé au moment de la première élection de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on avait mis en place des possibilités d'accueil pour un certain nombre de chercheurs des États-Unis qui ne pouvaient plus travailler sur leur sujet de prédilection, notamment sur toutes les questions de climat, d'écologie, etc., ce qui va se reproduire là, apparemment.
L'appel avait été entendu, vous vous souvenez, si vous avez
Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'était en fait l'ambassade et le bureau du CNRS aux États-Unis qui récupéraient toutes les demandes des chercheurs et des laboratoires français avec lesquels ces chercheurs avaient déjà collaboré, qui disaient, OK, nous on les accueille. Et donc il y avait des systèmes de bourses particuliers qui avait été réservé pour les chercheurs américains. Et je pense que c'est ce qui va probablement se remettre en place. On avait appelé ça « Make our planet great again
». Donc une espèce de « brain » à l'envers, c'est-à-dire que c'est nous qui attirerions les cerveaux, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse qui se produit.
Mais ça aussi, je crois que c'est quelque chose qu'on entend souvent. En réalité, il y a beaucoup d'allers-retours. Et puis il y a des moments dans la vie où où on se sent mieux à travailler dans un certain environnement, et puis d'autres où on préfère travailler dans un autre environnement. Donc, c'est normal, et je pense même que c'est bénéfique que l'on puisse avoir une expérience à l'international, aller, venir dans le monde de la recherche.
Est-ce que, on peut s'attendre à un renforcement des coopérations avec les autres grands pôles ? On peut s'imaginer que le Canada, la Chine... L'Afrique, l'Inde vont peut-être attirer davantage de collaborations avec l'Europe, ou en tout cas qu'on va peut-être se détourner de ce qu'on faisait jusqu'ici avec les États-Unis, non ?
On va essayer, à mon sens, il ne faut pas se détourner des États-Unis, il faut continuer à soutenir le fait qu'il faut qu'il y ait de la recherche qui continue à se faire aux États-Unis, évidemment. Et il faut que les chercheurs puissent un temps éventuellement travailler ailleurs, puis ensuite y revenir. Bien sûr, ça peut améliorer les liens avec d'autres continents, même si ils existent déjà. Le problème, c'est souvent la barrière de la langue. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur des formations qui vont pouvoir être offertes en français et en anglais, parce qu'il faut aussi, évidemment, maintenir la capacité des jeunes qui nous rendent visite en études à apprendre aussi le français. Ça fait partie de cette culture que j'évoquais tout à l'heure. Et puis les universités européennes, c'est leur nouveau terrain de jeu, si je puis dire, puisque ces consortiums d'universités qui sont créés au niveau européen peuvent être très attirants pour les étudiants internationaux qui, du coup, peuvent rentrer dans l'une des universités du consortium et avoir un parcours dans plusieurs de ces universités. Et donc, finalement, découvrir l'Europe et pas seulement découvrir un pays d'Europe.
On voit que le sujet de la défense et de la sécurité est de plus en plus dans l'actualité. On voit que les pays européens réfléchissent à mettre plus d'argent, plus d'investissement dans les armées. Est-ce que vous craignez que cet argent-là soit pris sur d'autres budgets, et en particulier celui de l'enseignement sup ?
En réalité, non, parce que, comme je vous le disais, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est un ministère qui travaille en collaboration avec énormément d'autres ministères, et notamment sur le sujet de la défense. Dans le Conseil d'innovation de la Défense. Évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était représenté. On a un certain nombre de découvertes scientifiques qui peuvent aboutir à des usages qui soient civils ou militaires. Donc, en tout cas, du point de vue de la recherche, je pense que ce sera potentiellement même plus d'investissement si on pense au quantique, si on pense à la cybersécurité, si on pense à l'espace. Bon, là, on est sur des sujets où les investissements militaires, entre guillemets, vont devoir se nourrir de la recherche. Et donc, à un moment, on va aussi devoir permettre à cette recherche d'exister et de garder son niveau de qualité qui, dans ces domaines que je viens d'évoquer, est excellent.
Une dernière question, Frédéric Vidal, sur vos activités actuelles. Un mot sur ce think tank que vous présidez, Askema. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette mission et qu'est-ce que vous souhaitez en faire exactement ?
Parce que là, on est une fois de plus à l'intersection entre la science, la connaissance et la société. Et moi, je suis vraiment convaincue que parce que le monde est complexe, il faut qu'on ait des clés de décryptage. Et donc, il faut absolument irriguer la société avec les résultats de la recherche. Alors, évidemment, vulgariser, même si je n'aime pas le mot vulgariser, de manière à ce que ce soit compréhensible. Et il faut que de cette recherche, on soit aussi capable de faire des propositions de politique publique. Parce qu'on ne se sert pas suffisamment des résultats de la recherche, à mon avis, pour mettre en place des politiques publiques à long terme. La recherche, ça se fait dans le temps. Donc c'est à la fois une vision historique, mais aussi une capacité de projection et de prédiction de ce qui va être le plus probable en fonction des environnements. Et ça, il faut qu'on soit capable de le traduire pour l'ensemble de nos concitoyens, pour l'ensemble des décideurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Et c'est ça que j'aimerais faire dans ce think tank. Et donc finalement, mesurer quelque part l'impact de tout ce travail de recherche qui est fait à l'intérieur de Schema. Et impliquer les étudiants, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir leur opinion sur le monde que nous sommes en train de dessiner, mais qu'eux habiteront. Donc tant qu'à faire, autant écouter ce qu'ils ont à dire aussi. Et donc ce sera un think tank probablement un peu original de ce point de vue-là, parce que je voudrais que les opinions et les envies des étudiants, des jeunes, des profs, des chercheurs se croisent et permettre de faire ces propositions de politique publique.
Et premier résultat, à quel horizon ?
On a déjà publié quelque chose autour de justement intelligence artificielle et impact au sens large. Publié aussi quelque chose autour de les bitcoins comme réserve stratégique. Hein, on a des chercheurs qui travaillaient là-dessus au sein de Schema qui ont publié ça. L'impact de la loi Omnibus au niveau européen. Puisque effectivement, là, ça va changer les choses avec une idée qui est de travailler plutôt dans ce qu'on appelle la smart law, c'est-à-dire fixer des objectifs dans la loi, mais ensuite laisser les gens prendre le chemin qui leur convient le mieux pour aller faire ces objectifs, plutôt que de faire un fichier Excel avec des croix. Voilà, on passe son temps à remplir les croix au lieu de faire ce qui doit être fait. Et puis là, le 3 juin prochain, on interroge les étudiants de Schema, enfin une partie d'entre eux en tout cas, sur justement à l'heure de l'IA générative, comment ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs profs à l'heure de l'IA générative et qu'est-ce qu'ils pensent que leurs futurs employeurs vont attendre d'eux à l'heure de l'IA générative. Donc c'est un débat. Et à l'issue de ce débat, on produira en fait un document qui résumera cette vision à la fois des professeurs et des étudiants sur l'usage de l'IA générative.
Beau programme. Alors il est déjà temps de conclure cet échange, déjà très riche, mais il nous reste une question à vous poser, car c'est la tradition dans le grand oral. Quel conseil de lecture auriez-vous envie de donner à nos auditeurs ?
Eh bien en fait, j'ai envie de leur conseiller chez Duno la série de livres à la plage, et alors plus particulièrement Newton à la plage, qui a été écrit par Yann Mombrini, qui a la particularité d'être un astrophysicien, magicien, vulgarisateur, donc c'est un personnage à lui tout seul. Et là, c'est toujours la même chose, je crois qu'il faut qu'on comprenne tous le monde dans lequel on vit, et si on commence par les bases, donc il y a Newton, mais il y a aussi Einstein, il y a aussi Schrödinger... Voilà.
Donc c'est pas Martine à la plage, c'est Newton à la plage.
C'est Newton à la plage, absolument.
De la vulgarisation, donc.
Oui.
Merci beaucoup, Frédéric Vidal, de cette halte au Studio Module. Merci à vous, Jérôme. Et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.